livre à lire. Eh bien, je vais vous en rajouter un autre sur la pile.
Avec plaisir.
Ce sont Les Secrets de l'Olivier d'Émilie Borel qui paraît aujourd'hui aux très belles éditions des Équateurs. C'est un livre et aussi un combat. C'est une histoire de sauvegarde du patrimoine et de la gastronomie. C'est donc logiquement un livre qu'on a envie de défendre dans le Club de l'été. Bonjour Émilie Borel et merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans ce studio.
Bonjour, merci à vous.
Alors après avoir sillonné la planète, vous avez travaillé pour diverses ONG sur des zones de conflit, notamment en Europe de l'Est, en Afrique centrale, au Moyen-Orient. Vous avez décidé de poser vos valises en Corse, il y a un peu plus de 10 ans, pour fabriquer de l'huile d'olive. La Méditerranée, c'était pour vous une forme de retour aux sources. Vous, la fille d'un père provençal et d'une mère vietnamienne. Et vous racontez cela très bien dans votre récit. Un jour, c'est évident. Voilà, vous fermez définitivement la porte à votre vie de nomade. Pourquoi cette décision radicale? Et est-ce que ça a été aussi radical que ça ou finalement le fruit d'un long cheminement qui peut-être vous est apparu évident du jour au lendemain?
Alors, c'est les deux à la fois, dans le sens où c'était radical parce que du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui venait un petit peu aussi parce que le monde que j'avais connu au départ dans l'humanitaire n'était plus celui... qui me correspondait et qu'il était. Et donc voilà, et étant donné que je j'avais des racines bien ancrées en Méditerranée à travers mon père, c'était le retour logique à la maison.
Oui, puis au-delà de ça, vous vous inscrivez à l'université, vous reprenez des cours de philo, vous vous replongez dans les textes anciens, dans le grec. Vraiment, justement, cette volonté de revenir à cette terre. Et vous avez planté de vos mains votre livret, c'était en 2008, le Moulin Oltremonti, c'est ça, une livret de 35 hectares, fondée sur les principes de l'agriculture bio. Vous produisez de l'huile d'olive vierge extra sous le label AOP Huile de Corse. Qu'est-ce que ça a justement de particulier? Qu'est-ce que ça lui confère comme particularité?
Alors c'est pas aussi simple que ça. Ouais. D'abord, j'ai planté mes oliviers pour une raison simple, c'est que l'olivier, c'était pour moi une façon de revivre cette Méditerranée, cette culture, cette civilisation qui est la mienne, qui est la nôtre, puisque la Méditerranée du nord au sud, est à ouest est une grande civilisation qui se perd. Et l'olivier, qui aujourd'hui d'ailleurs se perd aussi, est négligé puisqu'il est, il se trouve bien dans les mêmes contrées que l'homme dans le sud, et donc il se perd. On bétonise, on fait des villages de vacances, voilà. Donc l'olivier qui était à un moment donné sacré ne l'est plus autant.
Alors même qu'on parle de la Corse comme d'un sanctuaire de ces olives.
Mais je parle là de toute la Méditerranée. Hein. Je parle du sud de la France, comme l'Italie, la Grèce et la Corse fait partie de cette culture méditerranéenne. Et pour moi, la Corse est une terre d'oliviers, mais qui est aussi assujettie à un abandon absolument effroyable, l'abandon des oliviers, puisque c'est une terre d'oliviers, mais... On a voilà, et donc pour moi retrouver cette oliveraie de mes rêves, je dirais, c'était aussi une façon de respecter et de d'essayer de mettre en avant l'olivier dans toute sa philosophie, dans tout son symbole, et pour moi et pour cet arbre.
Et à nouveau, au nouveau paradoxe, on n'a jamais été autant friand de l'huile d'olive. Aujourd'hui, quasi tous les Français ont une bouteille d'huile d'olive à la maison. C'est étonnant. Donc, vous devez aussi souffrir la concurrence de cette industrie qui met la main mise aussi sur les olives. Alors, ça fait partie de la problématique aujourd'hui?
Oui, ça fait partie de la problématique. C'est le côté, comme vous dites, cette industrie. Donc, pour la plupart, nous produisons du vierge extra.
Bien sûr.
Donc, c'est quelque chose qui est différent.
Donc, et souvent, première pression demande... à froid. Donc, c'est
pas du tout.
Pas du tout.
Non. Ah. Alors, le vierge extra, il faut savoir.
Expliquez-nous. On est novices.
On va aller dans le côté un peu technique de la chose. Le vierge extra, d'abord, ça commence par un métier. Mmh. Ça commence par l'homme. Et sa relation avec l'olivier. C'est ça tout d'abord. C'est donc une cueillette, c'est un mouvement de la main à l'olive. D'ailleurs, Giono a bien expliqué ça. Lorsqu'on roule l'olive dans sa main, on ressent déjà cette relation entre l'olivier et...
Sensuelle.
Voilà. L'olive est un fruit. Ouais. Toute autre huile végétale est issue d'une graine. Rien à voir. C'est un fruit, ça se respecte. Ça se cueille au bon moment.
Donc, récolte manuelle, ce qui fait toute la différence. On n'est pas dans la mécanisation où là, on prend l'entièreté de...
Il y a ça aussi. Mais là, je vous parle...
Mais en ce qui vous concerne.
En ce qui me concerne. Ensuite, c'est un métier. Le moulinier, donc ça se dit moulinier, lui, il connaît les différentes variétés d'olives, parce qu'il y en a plus de 2000 en Méditerranée. C'est comme les cépages de vin.
Oui.
On dit souvent de l'huile d'olive.
Non, il y a c'est des huiles d'olive
avec des arômes, feuilles de tomates, herbes coupées, artichauts, ça peut être plein de choses, avec un piquant, comme le piment, comme le poivre, un peu d'amertume, comme l'endive. Il y a toutes ces choses-là à découvrir. Et pour faire cela, eh bien, il faut que le moulinier, il aime son métier et qu'il le connaisse. Et en ce qui nous concerne, Yves,
votre mari,
qui est notre moulinier, eh bien, c'est son rapport avec l'olive. Et donc, le fait de pouvoir extraire l'huile qui est dans ce fruit sans le modifier ou le transformer. Et faire ressortir le fruité, l'ardent, le piquant et tous ces arômes qui l'accompagnent. Voilà, donc ça, le vierge extra, maintenant on va revenir au côté technique, un peu moins romantique, mais le vierge extra. Alors, il faut savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle le COI, le Conseil oléicole international. Il a été créé en 1959, son siège est à Madrid et c'est une émanation des Nations Unies. Il règle toutes les normes de l'huile d'olive, du vierge extra, et de l'olive de table. Donc tout ça est très codé. Il y a des règles.
Et qui sont strictes. Très strictes.
En ce qui concerne le vierge extra, il y a trois règles principales. La première, c'est que ça doit être uniquement fait par des procédés mécaniques. Donc pas de raffinement, pas de produits chimiques, etc. Deuxièmement, on doit avoir un taux d'acidité. Donc cette acidité, ce n'est pas quelque chose que l'on goûte.
Non, mais
c'est
qui est
une analyse chimique que l'on va, voilà.
À l'olive, bien sûr.
Et des peroxydes, donc pareil, c'est une analyse chimique qui est très très basse et qui fait en sorte que justement une femme enceinte ou un enfant peut le consommer sans problématique. Les peroxydes, par exemple, c'est le taux, enfin c'est l'état de dégradation du produit.
Mais en gros, si on vous suit bien, ce que vous produisez, c'est le haut du panier, quoi. C'est le top du top du top.
Mais dernière chose, et la plus importante qui n'existe nulle part ailleurs dans un produit, c'est son analyse sensorielle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun défaut au nez ou en bouche.
C'est la perfection.
Voilà, c'est la
Alors, Émilie, aussi, il faut le préciser rapidement, vous êtes aussi là parce qu'il y a une urgence à la publication de ce livre, c'est que vous êtes menacée aujourd'hui. Comment est-ce que concrètement, on peut vous aider?
Alors, il faut aimer l'olivier, il faut y croire.
Ça ici, c'est bon, on aime l'olivier, on y croit.
Il faut se cultiver le palais et aimer le vierge extra. Et on ne peut pas dire huile d'olive, vierge extra, sans goûter. Il faut connaître, il faut essayer de s'apprivoiser le goût et donc connaître tous les fruités, etc. Mais au-delà de ça, il faut se dire une chose, c'est que l'olivier est... Pour moi, pour notre exploitation, c'est vrai, nous sommes quelque part en péril puisque il faut lire le livre pour comprendre, c'est un peu complexe, mais il y a aussi l'Europe qui a décidé beaucoup de choses et comme je disais, ce qui est incroyable, c'est que si à une époque l'olivier était sacré et dans les lois, dans les codes napoléoniens, etc., on avait dit que toute personne qui arrache un olivier est puni de peine de mort. Aujourd'hui, eh bien, on est arrivé à l'absurdité, c'est que planter des oliviers est hors la loi. Parce que, sous principe de précaution.
À cause
de l'Europe,
non,
à cause de nos élus.
Il faut lire
etc.
ce livre.
Il faut lire le livre.
C'est aussi de rappeler aux consommateurs, quand même qu'il faut privilégier à nouveau les produits de son terroir. Oui. La France est un formidable terroir des olives, je pense aux petites olives de Nice, etc. Il faut renouer avec ça. Il faut remettre du sens dans nos achats pour faire vivre des oléiculteurs comme vous qui ont véritablement, et on vient de l'entendre, la passion du produit, quoi. Et de la terre.
Mais oui, et puis il faut lire. Donc ce livre sort aujourd'hui. Daniel Picouli, je vais vous demander de lire la page 19 comme vous le faites dans votre émission littéraire sur Franceau. Alors on triche un peu parce que la page 19 c'est la fin d'une phrase, mais page 18 ça tombe plutôt pas mal.
Oui. Je vais faire un petit préambule parce que je voudrais dire que l'olivier, il y a à peine 3 semaines, c'est pas un sentiment que je ressens régulièrement, m'a rendu jaloux. Je suis allé chez un couple qui sont des sommités dans le vin, dans le Bourgogne, dans le Pommard, et ils ont acheté une oliveraie. Ils produisent maintenant de l'huile d'olive. Et j'ai eu l'impression d'être au paradis. Ils sont au Beau-de-Provence, dans les Alpilles, et quand j'ai parcouru les oliviers avec cet homme, les oliviers avaient un nom. Les enfants avaient donné un nom à chaque olivier, et les oliviers étaient des personnes. Et en plus, qui étaient accompagnés d'un respect absolument extraordinaire. Et ce jour-là, j'ai été jaloux. Je vous dis, quand quelqu'un a trouvé un paradis et que c'est pas moi. Voilà, donc je les salue parce que ce sont des gens absolument extraordinaires et qui peuvent, et cet homme peut respecter une herbe qu'il y a là parce que les petites mouches qui sont sur certaines vont protéger l'olivier. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut même aller voir uniquement pour ça. Et puis il n'y a pas de raison, il n'y a que moi qui sois jaloux.
On vous écoute, Daniel Picouli.
Mon père a toujours insisté sur nos racines méditerranéennes. Enfant, ma sœur et moi avions l'imaginaire rempli de mythes grecs, de femmes de courage et de rois fiers aux choix héroïques. Même si nous avions quitté un temps la Méditerranée et ses rochers blancs, nous la retrouvions dans l'accent, les colères, les exagérations de notre père. À son rythme intrépide s'opposait le silence de ma mère. Elle nous faisait beaucoup la lecture et transformait notre maison en havre de paix. Comme nous, elle apprenait aussi les langues de chaque pays où nous avions une facilité étonnante. Elle aimait flâner sur les marches pour goûter les fruits et légumes et les étals. Elle avait horreur des soirées mondaines et peu à peu laissa ses obligations à mon père, ce qui était une source de disputes et claquements de portes. Néanmoins, il dut s'avouer vaincu devant le côté romantique de ma mère, qui préférait de loin le calme d'une vie intérieure. Et malgré notre vie nomade, ma mère nous offrait à chaque étape de notre vie un décor sobre et beau. C'était cette fresque que retient ma mémoire d'enfant.
Merci Daniel Picouli, vous avez ému Émilie.
Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique.
Merci beaucoup, on va se ressaisir. Votre récit, Émilie Borel, Les secrets de l'olivier, paraît aujourd'hui aux éditions des Équateurs, il faut voilà, vous le lire. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous ce matin.
Des larmes d'or, voilà, aujourd'hui.
Dans un instant, ouais. C'est Ben